Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Idowani
wa makara.
Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenni Beri.
Halud Mouni.
Chenni Beri.
Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue.
18 août 2020, 18 août 2024, cela fait donc 4 ans que le régime d'Ibrahim Boubacar Keïta a été renversé par des militaires. Réunis au sein du CNSP, Comité national pour le salut du peuple mis en place au lendemain du coup d'État, ces militaires justifiaient leur action par la détérioration de la situation sécuritaire, la mauvaise gouvernance politique et économique. 4 ans après, comment se porte le Mali? Les préoccupations des Maliens sont-elles prises en compte? Quels sont les défis et perspectives pour le futur du Mali? On en parle dans ce numéro de Grand Dialogue avec trois invités. Sékou Niamey Batili, chargé de communication au sein du RPM. Boulam Baro, membre du directoire du parti SNID, Congrès national d'initiative démocratique. Docteur Ahmadou Touré, chercheur en sciences politiques, paix, sécurité au Mali. Je suis Mariam Maïga, auditeur, téléspectateur et à nos amis qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue.
Le Grand Dialogue.
Sur la situation sécuritaire évoquée comme principale raison du renversement du régime d'Ibrahim Boubacar Keïta, qu'est retenir de la gestion de la situation sécuritaire durant ces 4 ans de transition? La première question est donc adressée à Boulam Baro, membre du SNID.
Merci beaucoup. Je salue tous ceux qui nous suivent en ce moment. Permettez-moi aussi d'avoir une pensée pieuse pour tous ceux qui, à travers cette crise, ont perdu la vie. Et de là aussi, avoir aussi une pensée pour les victimes des récentes inondations que le Mali vient de connaître. Effectivement, en vouloir faire, pas le bilan, mais à rappeler aux uns aux autres les objectifs que les uns et les autres se sont fixés après la chute du régime d'Ibrahim Boubacar Keïta, n'est pas cité l'action, les activités politiques que les M5-RFP a engagées avant l'intervention des militaires ne me paraît pas trop juste. Il faut situer l'intervention des militaires dans un contexte sociopolitique qui a précédé la date du 18 août. Cela me paraît extrêmement important. Alors, de ces faits, les objectifs politiques et sociaux que les M5 s'étaient donnés pour engager une lutte révolutionnaire permettant d'aller vers un changement de gouvernance, nous ont conduit malheureusement à la chute du régime. Sans quoi, certaines solutions avaient été proposées pour ne pas aller à l'extrême. Mais ces solutions n'ont pas suivi d'écoute attentive et nous avons été obligés d'aller vers la rupture totale. C'est ce qui marque la date du 18 août 2020. Les objectifs majeurs qui sont fixés, effectivement, vous l'avez si bien dit, principalement, c'est la question sécuritaire. La présence des forces étrangères sur le sol malien, qui sont venues, soi-disant, pour nous aider. Le Mali était sous tutelle onusienne. Donc, on n'avait pas notre autonomie politique de décision. De ces faits, aujourd'hui, nous constatons que nous sommes parvenus à se soustraire de ce tutelle au Niger et remercier les forces étrangères qui sont venues entre guillemets nous aider, mais que leur présence a créé plus de problèmes que de solutions. C'était un atout. Et aujourd'hui, nous avons renforcé la capacité opérationnelle de l'armée. Nous avons récupéré des villes, notamment Kidal, qui était devenue une zone interdite pour les autorités maliennes. Donc, de façon globale, sur le plan sécuritaire, il y a des efforts à faire, il y a des efforts qu'il faut continuer à faire, mais de façon globale, sur le plan sécuritaire, l'espoir est permis. Nous osons espérer que dans les années à venir, dans les mois à venir, les choses vont s'améliorer progressivement, mais tout en tenant compte de la situation géopolitique internationale. Parce que quand on n'a pas la maîtrise des enjeux sur le plan international, on va penser que rien n'a été fait. Mais les contextes changent d'un moment à un moment, à un autre moment. Les contextes changent des acteurs, en fonction des acteurs aussi. Donc ce qui fait, sur le plan en matière de sécurité, nous avons mis l'armée en confiance et à travers les actions de l'armée, le peuple malien est mis en confiance. Tout ce qui avait été dit comme quoi nous ne sommes pas en mesure de le faire seuls, mais Dieu merci, aujourd'hui, nous sommes en train d'engager des victoires sur les forces du mal.
Sekou Niamey Batili, je me dirige vers vous, il a dit tout à l'heure, des attentes ont été comblées, notamment certaines villes ont été reprises, l'armée s'est installée un peu partout dans le pays, et surtout les militaires et les étrangers qui étaient là sont partis, l'armée a pris également la sécurité de la nation seule sur le terrain actuellement. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que cette transition a pu combler les attentes du Malien lambda concernant la situation sécuritaire?
Vous savez, sur ces arts décisés, très généralement, je préfère être mesuré.
Allons dans la mesure,
c'est,
donc.
C'est vrai que nous, à notre niveau, le parti a fait plusieurs communiqués pour saluer les actions de l'armée, surtout le renforcement de l'outil de défense nationale. Là, c'est une réalité. Hein, je voudrais qu'on salue surtout la poursuite des efforts de nos autorités dans le sens du rééquipement de l'armée. Ça, c'est une réalité, parce qu'il faut retourner un peu en arrière. Mais faire de telle sorte que cela a commencé aujourd'hui sur cette transition, c'est nier aussi l'évidence. Il y a eu des efforts avant, des efforts que nous devons saluer. D'abord, je me rappelle encore, après le coup d'État de 2012, quand le président Ibrahim Boubacar Keïta venait au pouvoir, chacun au Mali savait les conditions de nos forces de défense et de sécurité. Plusieurs militaires, souvent, certains aimaient citer 5 à 7 militaires partageaient un seul fusil. Les militaires n'étaient pas bien habillés, bien équipés. Les militaires n'étaient pas. Le moral n'était pas au top, n'était pas requinqué. Et tout cela, des efforts ont été fournis par les autorités pour rendre l'armée malienne fière d'abord, pour préparer l'armée, équiper l'armée, les mettre en confiance sur le terrain. Ça, ce sont des réalités. Des achats, des équipements militaires ont eu lieu bien avant cette transition.
Mais donc, permettez-moi de vous juste vous arrêter. Est-ce qu'on ne peut pas dire que cette remise à niveau est en hausse davantage?
Exactement, c'est pourquoi j'ai
dit. Parce qu'aujourd'hui, on peut dire que le Mali même fait des interventions dans les pays frontaliers.
Non, vous me laissez continuer.
Alors,
allez-y. C'est pourquoi j'ai parlé de poursuite des efforts. Okay. Ça veut dire qu'il y en a eu sous cette transition. Et chose que nous avons saluée. C'est pourquoi j'ai dit à l'entame de mes propos que notre parti, le RPM, a fait plusieurs communiqués pour saluer l'armée. Ça veut dire qu'il y a eu des réalisations sur cette transition. Mais comme mon prédécesseur l'a dit, on est obligé souvent de revenir un peu sur nos pas pour expliquer des efforts qui ont été fournis avant. Et c'est que les autorités actuelles continuent aussi de le faire. Nous saluons les autorités par rapport aux assas, des équipements militaires, par rapport aussi à la formation, à la poursuite des formations de nos militaires, mais surtout par rapport à des choix stratégiques. Ça, c'est une réalité. Je me rappelle encore l'actuel Premier ministre, quand il venait en 2021, il a présenté un programme d'action gouvernementale devant le CNT, dans lequel programme il y avait 4 axes, et parmi les 4 axes, je me rappelle que ceux qui sont membres du CNT l'avaient évalué à l'époque. Et sur les 4 axes, on pouvait dire qu'au niveau de la sécurité, il y a eu des avancées. Ça, ce sont des réalités. L'occupation des emprises de la MINUSMA à la faveur de la résolution 2690 est une réalité. Et cette occupation de ces emprises a permis à notre armée de revenir en force dans la ville de Kidal et dans d'autres localités du pays que les forces onusiennes occupaient bien avant. Et ça aussi, c'est un progrès que nous avons salué. Au niveau de la sécurité, j'ai dit très bien qu'il y a eu des avancées, mais restons en tout cas mesurés, tout simplement parce que nous constatons aussi qu'au centre du pays, des régions comme Bandiangara, comme Douanza, Bankas Koro, sont moti même, Djéné, vers les cercles de Djéné, un peu aussi vers Ségou, où encore l'insécurité est grandissante, il y a des inquiétudes. C'est pourquoi je dis, je préfère rester mesuré. Et dans la région de Kaï, plus récemment, nous avons constaté que des attaques se reproduisent un peu partout dans les cercles de Yélimané, dans les cercles de Sandaré, dans la région de Nioro, souvent aussi dans la région de Nara, à Mourdia, où l'insécurité s'étend vers d'autres parties du territoire. Donc nous alertons aussi les autorités à fournir encore plus d'efforts. C'est vrai qu'ils ont fourni des efforts, mais à multiplier aussi des efforts, parce que c'est force du mal plutôt. Quand vous arrivez à les anéantir d'un côté, ils essayent d'occuper d'autres pans du territoire. C'est vrai que la lutte contre le terrorisme au Mali est très complexe et très difficile. Nous encourageons nos forces de défense et nous rendons hommage à ces vaillants militaires qui sont au combat, et aussi prier pour le repos éternel de l'âme de tous ceux qui ont subi cette insécurité.
Alors, Sekou Niamey Batili, nous allons rester dans la mesure toujours et vous garder la parole. Est-ce qu'on peut dire que, autrement dit, les résultats ont-ils été à la hauteur ou en deçà des attentes en 4 ans?
En 4 ans, au niveau de la sécurité, il y a eu des avancées. Je le répète, on n'est pas au niveau comme on était avant 2020. Ça, c'est inédit. Ça, c'est alors, uniquement au niveau...
Merci beaucoup par rapport sur pardon, la situation
pardon,
sécuritaire.
Pour finir. Les restes, nous non, allons... C'est la même phrase. J'aimerais bien compléter ma phrase. Il est aussi à noter qu'au niveau des mouvements, c'est-à-dire des déplacés, des réfugiés, le nombre a plutôt augmenté. Et là aussi, c'est inquiétant. C'est pourquoi j'ai salué l'armée pour ses efforts, mais la réserve, c'est par rapport aussi au mouvement des personnes dans ces lieux d'insécurité. Ça inquiète aussi. Donc nous pouvons dire qu'il y a eu des avancées, mais il reste beaucoup à faire.
Merci beaucoup, Sekou Niamey Batili. Le temps de donner la parole à Hamadou Touré, spécialiste des questions de sécurité et de paix. Monsieur Touré, quel bilan dressez-vous de la gestion sécuritaire en 4 ans de transition?
Oui, bonsoir, co-débatteur, bonsoir aux téléspectateurs et téléspectatrices. Avant de faire pas un bilan, mais on peut faire une évaluation, parce que la transition n'est pas... La fin n'est pas pour demain, parce que la priorité des organisations n'est pas la priorité de la transition en cours. Donc, pour mieux faire un bilan, il faudra attendre la fin. On peut évaluer. Mais en attendant cette évaluation, je présente joyeux anniversaire à la radio pour ses 11 ans, Studio Tamani.
Merci beaucoup.
Et prompt établissement aux victimes de l'attaque de Tizan Ouattène. Donc, devoir de moment oblige, il faudrait restituer les faits, parce qu'on se rappelle la perte des régions du Nord n'est pas due à la transition, mais n'est pas due à ATT, mais c'est dû aux militaires. Donc, en 2012, lorsqu'il y avait eu le coup d'État 2012, on a perdu les régions du Nord. Et aussi, ATT, n'oubliez pas qu'ATT était un grand acteur de la paix, un grand militaire qui a joué un rôle dans la sécurité du Mali, et notamment dans les régions du Nord. Il n'a pas été bien compris au départ. Et aussi, quand on dit que la présence des forces étrangères ont amené, déplacé l'insécurité du Nord au centre, or qu'on se rappelle que l'intervention de la force Barkhane ou force Serval, c'était à Konda. Donc l'insécurité, avant l'intervention des forces étrangères, était déjà au centre. Maintenant, concernant le bilan ou l'évaluation de la sécurité, on peut dire qu'il y a eu des avancées, notamment dans la reconquête territoriale, des emprises de la MINUSMA, notamment à Kidal, mais cette reconquête territoriale n'est pas effective sur l'ensemble du territoire. Pour rappel, nous avons le cas de Tinza Ouattène, qui est un cas spécifique. Tant que Tinza Ouattène et l'ensemble des villes frontalières du côté algérien n'est pas sous contrôle total des FAMA, on ne peut pas dire qu'on a notre reconquête territoriale dans ce domaine. Mais d'une façon très générale, il n'y a pas un endroit ou un point stratégique sur le territoire où des groupes armés peuvent l'occuper. Donc on peut dire que tout simplement, il y a un problème d'extension ou l'expansion de l'autorité de l'État. On libère les zones et après, certains groupes qu'ils peuvent occuper. Donc on a l'entier mouvement, on a l'autorisation, on a la capacité militaire d'aller partout où on veut sur le territoire, sauf à Tinza Ouattène. Donc tant qu'on n'a pas à Tinza Ouattène, notre conquête territoriale, les objectifs dans ce domaine ne seront pas atteints. Et spécifiquement, si on veut aussi évaluer, faire le bilan ou évaluer les réformes, notamment dans le domaine de la sécurité, il y a eu des avancées notoires, notamment, il ne faut pas qu'on oublie l'accord de défense que le Mali a eu a établi ou signé avec la Russie qui nous a permis d'avoir des équipements militaires de dernière génération. N'oubliez pas aussi, il y a l'AS, avec la force conjointe de l'AS qui intervient dans des domaines spécifiques où il faut faire des patrouilles mixtes, où l'armée malienne peut ou pourrait intervenir de l'autre côté. Donc, d'une façon générale, on peut dire aussi que la sécurité à 100% n'existe pas. Donc, il faudrait que les gens comprennent que, bien que l'armée a la capacité ou a les moyens d'action, les exactions, bien, les tensions qui se passent actuellement au niveau du centre, moi, à mon niveau, pourraient être des distractions des forces ou des attaques sous forme d'une guerre asymétrique, notamment dont parlait Bachili, notamment à Yélemani ou bien à Léré, etc. Donc, c'est juste pour dire que dans notre guerre, ce n'est pas une guerre où il y a eu des affrontements, où il y aurait des affrontements directs. Donc, l'armée fait de son mieux, mais pour distraire nos forces, on peut, une journée, on peut subir 4 ou 6 attaques. Et l'armée aussi ne dit pas tout, parce qu'il y a des attaques qu'on ne parle pas, mais ce qui circule sur les réseaux sociaux. Donc, c'est pour dire que, pour que nous puissions dépasser cette étape nécessaire, mais qui va certainement durer 5 à 10 ans ou plus, et qu'est-ce qu'il faut? Il faut une union sacrée autour de l'armée, et que l'armée est la seule au Mali qui, à mon niveau, peut ou pourrait, qui fait l'unanimité. Sinon, tout le reste est divisé. Que vous prenez, les partis politiques sont divisés, la société civile, n'en parlons pas, les organisations de les jeunes. Il y a trop de tensions inutiles, moi, à mon avis, qui nous distraient. Et quand on est à Bamako, on n'a pas l'impression que le Mali est en guerre, ou l'insécurité, ou les attaques continuent au nord. Donc, pour revenir sur ce point, la sécurité existe, mais les difficultés, les défis restent. Notamment, la libre circulation des personnes et des biens, notamment dans les régions du nord, se pose. N'oubliez pas qu'avec la République des hostilités à Tinzawaten, les régions du Nord se sont dans un blocus à ciel ouvert en termes d'aller alimentaire, notamment à Gao, Tombouctou. Rien n'entre, rien ne sait, parce que ces régions sont notamment fournies en termes de sécurité alimentaire par l'Algérie ou soit par la Mauritanie. Donc un bilan acceptable, mais les défis restent à relever.
D'accord, un bilan un bilan qu'on va dire un tout petit peu oui, non, en même temps. Oui. Mais vous l'avez tantôt dit, trop de tensions qui distraient, l'embargo sur certaines voies, certaines villes, également les défis sécuritaires sont énormes. Donc. Mais il y a également cette option qui tourne à chaque fois et qui est de négocier avec certains, les groupes armés. Est-ce qu'aujourd'hui, une question tour de table, cette option est possible dans notre pays, dans l'état actuel, M. Touré?
Oui, on peut, parce qu'on a toujours dit que la guerre seule ne suffit pas. Parce que pour faire la paix, il faudrait avoir la stabilité des institutions. L'instabilité est un facteur de déstabilité. Parce que tant qu'on n'a pas d'institutions stables, tant qu'on ne négocie pas, on ne pourra jamais mettre fin à la guerre. Comme je l'avais dit, on a raté 2 options. L'accord d'Alger qui est parti en éclat. On a organisé les DIM, dont les résultats, on avait tout simplement dit que la montagne avait accouché d'une souris, parce que tout simplement, le dialogue intermalien aurait dû être l'occasion pour les Maliens de discuter sans passion, sans émotion, sur base des discussions basées sur la raison, pour mettre fin définitivement aux velléités d'indépendance du Nord, gérer les difficultés en matière de déséquilibre de développement. Parce que pour dire que le Nord et le Sud, il y a vraiment un déséquilibre en matière de développement sur toutes les infrastructures, sur tous les plans. Donc, qu'est-ce que le dialogue aurait dû faire? Appeler les belligérants, négocier avec eux, trouver des terrains d'entente, mais tel n'est pas été le cas. Mais heureusement, dans les recommandations du dialogue intermalien, qu'est-ce qui a été dit? Dans les recommandations, on a exigé à l'État d'aller vers le dialogue. Des dialogues même avec les groupes radicaux, souvent du dialogue doctrinal. Là, c'est compliqué. On a même dit de négocier avec les touristes. Il y a l'autre, il y a Haïdara aussi, qui vient s'ajouter au lot, pour dire que vraiment, il faut aller au dialogue. Parce que la guerre a ses limites. Je donne un exemple. Il n'est pas facile au Nord qu'on combatte les leaders, ou bien les leaders, les belligérants, ou à que leur famille accepte de revenir. C'est très difficile. Surtout que notre système familial, c'est des pâtirages. Donc chaque leader a derrière lui sa famille, derrière lui ses amis. Et notamment pour mettre fin à cette guerre depuis 1960, il y a toujours les mêmes problèmes, les mêmes rébellions. 10 ans, 15 ans au coup d'État, 10 ans, 15 ans, rébellion. Donc pour mettre fin définitivement à ce problème, il faut qu'on ait le courage de s'accepter, surtout ce qu'on appelle la règle conduite, la règle d'or en matière de conduite qui est la tolérance mutuelle. Qu'on s'accepte de se pardonner, de s'asseoir et surtout de discuter. Par exemple, les cas spécifiques du Nord, qu'est-ce qu'il est possible de faire maintenant? ceux qui sont sous mandat de ceux qui sont sous mandat de dépôt ou mandat de sous son mandat d'arrêt peuvent venir faire face à la justice, quitte à la justice de voir comment les mécanismes de renégocier leur peine. Je ne vais pas m'immiscer dans les devoirs de justice, mais ils peuvent venir se mettre à l'arrêt. Maintenant, eux le reste, les déplacés et les réfugiés, d'impliquer les pays voisins tels que l'Algérie ou la Mauritanie, de faire en sorte que nos parents, nos réfugiés ou ce qu'on appelle les équipes de police puissent revenir. Donc pour résumer à la réponse à cette question, on peut notamment continuer la guerre parce qu'un État qui va négocier en position de faiblesse aussi n'est pas un État. C'est-à-dire que l'État devrait s'imposer d'abord et on a dit en politique, seul l'État a la force légitime d'utiliser la force létale. Seul l'État a le droit de porter les armes sur le territoire. Il n'y a pas deux armées. Donc l'État occupe le territoire. En ce moment, on pourrait négocier avec ceux qui peuvent venir. Donc on ne peut pas faire la guerre 100% sans les actions de négociation. C'est pour ça que j'avais toujours dit que les aides sociales du président de la transition, c'est bien, mais ils devraient doser par une ouverture sous forme de dialogue social.
Alors, on ne peut pas, d'après ce qu'il vient de dire, négocier en position de faiblesse. Est-ce qu'aujourd'hui, M. Barrot, on ne peut pas dire que le Mali, surtout la montée en puissance dont on parle, fait qu'aujourd'hui, on peut aller vers cette option-là?
Non, je ne sais pas. Il faut qu'on se pose la question. Il s'agit de négocier avec qui? Parce qu'aucun État, aucun État n'est obligé de négocier avec ni des terroristes, ni avec des rebelles. Ça, c'est aucun État.
Mais même si certains groupes armés sont des enfants égarés, comme les gens disent souvent, des enfants égarés de la nation, égarés, qu'on peut appeler toutefois à la raison.
Pour les bonnes fois, ils doivent commencer à déposer les armes. Depuis la signature de l'accord dit d'Alger, on a fait 7 ans déjà, ils ont refusé de déposer les armes. Quand les gens détiennent les armes face à toute une nation, la meilleure façon d'exprimer, de montrer leur bonne foi, c'est de déposer les armes et on engage les négociations. Mais ils étaient de mauvaise foi pendant 7 ans. Nous sommes restés dans cet accord-là. Le préalable, c'était de déposer les armes. Ils ont refusé de déposer les armes. La meilleure façon pour l'État, il faut s'imposer par la force. On ne peut pas encourager ces gens de choses. Personne ne peut exiger à un État de négocier avec une rébellion, sauf si cela est l'option politique de l'État en question. Ça, c'est un principe. Maintenant, quand les gens prennent des armes au motif qu'ils sont égarés, une année, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 7 ans, non, je pense qu'il y a matière à se poser la question. Surtout qu'on fait la confusion entre ceux qui sont... On n'arrive pas à faire le distinguo entre ceux qui sont rebelles et ceux qui sont terroristes. Depuis la reprise des 3 régions du Nord, ils se sont mis ensemble pour occuper ces 3 régions. On ne peut pas faire le distinguo entre un groupe rebelle et un groupe terroriste en 2012, quand ils occupaient les régions du Nord. Tantôt, c'est les Moudjahou, tantôt on parle de MLA, tantôt on parle de Al-Qaïda. Ils se sont mis ensemble pour occuper les terrains. Mais s'il y a lieu de les combattre, on les combat. Tout récemment, quand il y a eu l'attaque du bateau de Tombouctou, ceux qui ont revendiqué cette attaque, ils sont qui? Ils sont-ils des rebelles ou des terroristes? Mais pourtant, il y a des acteurs qui se disent rebelles, qui ont revendiqué cette attaque. Mais l'acte qu'ils viennent de faire sur le bateau, c'est un acte terroriste ou pas?
À vous de répondre.
Non, c'est un acte terroriste. C'est pour vous dire que pour moi, ils se sont mis ensemble sous la forme d'une force hybride pour attaquer le Mali. Alors, on nous sommes donné les moyens, renforcer notre armée en capacité opérationnelle pour les combattre. Maintenant, ceux qui pensent à ce stade, qui sont en position de faiblesse, ils n'ont qu'à déposer les armes, ils vont rentrer dans les dialogues. Maintenant, dire que l'armée n'est pas autorisée à aller à Tenzawaten, je suis étonné d'entendre ça. Venez de dire que
on n'est pas arrivé, j'ai dit, pour atteindre l'intégrité territoriale, il faudrait avoir Tenzawaten. Sauf qu'à ce jour, on n'est pas à Tenzawaten. Il dit la reconquête territoriale.
Ah, nous sommes autorisés à aller quand même.
Non, je ne parle pas de... Peut-être la maîtrise, ce que je comprends.
D'accord.
Dans,
non, voilà. Moi, je crois savoir...
Une minute, on va juste... cette parenthèse, monsieur Touré, s'il vous plaît. J'arrive. Il va juste éclaircir ça et puis vous prenez la parole, monsieur Barrot.
La reconquête territoriale n'est pas à 100% aujourd'hui. Tout de suite. on n'a pas l'intégrité de notre intégrité territoriale. Sauf si on est à Tinzawaten. Le mot autorisé, j'ai pas dit. J'ai dit l'armée a la capacité et les mouvements d'aller partout sur le territoire national. Parce que j'ai dit qu'on n'a pas de guerre sous forme d'affrontement direct. C'est une guerre asymétrique. Et ce qui se passe au sein, c'est une distraction pour disperser nos efforts. Tant qu'on n'a pas recouvré l'entièreté de notre territoire, la reconquête territoriale à 100% n'est pas acquise, c'est ce que j'ai dit. On est souverain, mais à Tinzawaten, on n'est pas encore. Le Mali n'a pas encore récupéré Tinzawaten.
Voilà. Allez-y maintenant, M. Barrou.
Ouais. D'accord. Donc, moi, je crois savoir que les récentes batailles que l'armée a engagées, ça s'est passé à Tinzawaten. Et personne ne peut aujourd'hui dire encore que ces groupes rebelles ou terroristes occupent Tinzawaten. L'armée a bien précisé dans son communiqué, la zone est sous contrôle et les opérations vont poursuivre. Donc, voilà pourquoi j'ai dit, tant qu'on n'a pas la dimension des enjeux internationaux, des enjeux politiques, on ne peut pas régler cette affaire. Personne ne veut qu'on installe le Mali dans une guerre sans fin. Mais désormais, les gens doivent comprendre que l'armée a une mission. À une mission républicaine, régalienne, qui consiste désormais à mener cette bataille-là, quotidiennement. Et cela ne doit pas être confondu aux actions politiques ou à haute gouvernance. Nous devons continuer à renforcer la capacité opérationnelle de l'armée, mettre l'armée en confiance, amener le peuple malien à soutenir son armée, coûte que coûte, vaille que vaille. Maintenant, ceux qui pensent qu'il faut renoncer à la rébellion armée, ils n'ont qu'à déposer les armes, ils ont des canaux qui les permettent de revenir. Maintenant, ceux qui ont des mandats de recherche, qui ont lancé des mandats de recherche, ils doivent venir se soumettre aux exigences de la justice. C'est après justice qu'on pourra voir ce qu'il y a lieu de faire. Maintenant, là où ils sont, au lieu de respirer leur bonne foi, ils sont en train de créer des velléités, encourager les gens à continuer dans cette bataille armée qui, à mon avis, n'est pas un comportement de bonne foi. Donc, de ces faits, j'ai dit clairement que l'armée est en capacité d'opérer sur tout l'état du territoire national. Et de ces faits, aucune autre force ne pourrait interdire l'armée d'intervenir là où l'armée souhaite intervenir.
Monsieur Barrou, merci. On aura compris. Vous n'êtes pas d'accord avec cette option de négocier avec les groupes armés parce que pour vous, rebelles et terroristes aujourd'hui sont confondus quand on prend en exemple l'attaque du bateau Tombouctou. Est-ce que vous êtes d'avis ou bien pour vous également, cette option est possible d'aller négocier avec les terroristes, Monsieur Niamey, Sekou Niamey Batili?
Moi, j'estime d'abord que l'option militaire à elle seule ne peut pas prospérer. Aucun conflit, aucune guerre au monde n'a fini par les armes. Ça finit toujours par le dialogue. C'est parler entre nous. Maintenant, ce que je ne comprends pas dans la démarche surtout gouvernementale, c'est le fait de réunir les Maliens lors des forats et que les peuples, selon eux, ceux qui ont pris part à ces forats font des recommandations, mais après que ces recommandations sont remises en cause par les mêmes gouvernants. C'est de l'incohérence dans la démarche. Je me rappelle encore les accords de Ouaga. Bien avant, le régime IPK avait recommandé à aller vers le dialogue 60 jours après les élections présidentielles. Sous IPK, la conférence d'entente nationale a recommandé le dialogue avec non seulement le groupe rebelle, mais les groupes armés tout court. Après, le dialogue national inclusif a recommandé ces mêmes dialogues. Les assises nationales de la refondation en fin 2021 au Mali, sous cette transition, a recommandé, et d'ailleurs, les autorités nous rappelaient à chaque fois que les recommandations des assises nationales de la refondation sont contraignantes. Et après, le DIM récemment, le dialogue national, le dialogue intermalien bien sûr, aussi a fait des recommandations à aller vers le dialogue. Après, tout tous ces milliards investis dans ces forats et qu'on vienne remettre ça en cause, poser la même question si on doit aller au dialogue ou pas. Moi, je ne comprends pas. Ça veut dire qu'on réunit les Maliens pour les faire parler, mais après, c'est de façon sélective, on met en œuvre les recommandations. Je ne comprends pas. Aujourd'hui, j'estime que l'armée fournit des efforts. Et la poursuite des opérations militaires pour la sécurisation du territoire national est une réalité et doivent continuer. Mais à côté, nous devons être capables aujourd'hui de mettre en place aussi un dispositif de dialogue entre nous. Et d'ailleurs, récemment, M. Touré l'a dit, le président du Haut Conseil, le Haut Conseil islamique du Mali, Haïdara, a aussi fait la main tendue pour demander à aller dialoguer. Mais c'est vrai que dans les dialogues aussi, il n'est pas dit qu'on va dialoguer avec tout le monde. Il y en a qui sont disposés peut-être à dialoguer. Nous pouvons aller vers eux. Ils peuvent revenir à la République. Il y en a qu'on peut aussi récupérer. Ça, c'est une réalité. Mais il y en a aussi qui sont irrécupérables. On les sait aussi dans un dialogue. Ça se passe toujours comme ça. Mais c'est camper sur une position. Ne pas vouloir, je ne pense même pas que ce soit la volonté du président de la transition de se camper sur une position. Mais, de part, son gouvernement, quand le dernier meeting du Premier ministre, on le suit, on voit que le gouvernement n'est pas dans cette logique-là. Or, aujourd'hui, nous devons être capables de concilier les dépenses, c'est-à-dire poursuivre les opérations pour sécuriser le territoire national, parce que l'objectif, la mission de l'armée, c'est la défense nationale, la défense du territoire. Personne ne peut demander à l'armée d'arrêter de sécuriser le territoire. Ça va poursuivre. Mais à côté, mettre aussi des mécanismes pour essayer de démarcer ces Maliens-là qui, pour certains, sont dans l'erreur et qui peuvent être récupérés, de les récupérer, de les faire venir dans la République. Moi, je pense que ce sont des initiatives à encourager et à s'allier.
Alors, Sékou Niamey Batili, gardez toujours la parole. Vous l'avez écorché dans vos propos. Je viens vers vous, M. Barrault. De l'accord pour la paix en passant par le dialogue intermalien et récemment les rencontres pour la rédaction de l'avant-projet de la charte pour la paix et la réconciliation, qui continue. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui les résultats ont mal à être appliqués? Les résultats, quand les centaines de milliers de Maliens se rencontrent pour discuter des intérêts de la nation, les recommandations issues de ces travaux ont de la peine à être appliquées aujourd'hui?
D'abord, primo, peu de ces dialogues, rarement on voit des dialogues sincères.
Mais c'est tout le Mali qui y participe.
Je dis, ça dépend des organisateurs. Je ne parle pas de ceux qui participent, pas des participants. Mais la paix, on parle de paix entre des gens qui n'ont pas la même vision, qui se contredisent. Mais si on met dans une même salle des amis, des Maliens qui voient la chose de la même manière, et on dit on est allé vers un dialogue. Ça, c'est quel genre de dialogue? C'est ceux qui disent non à la République aujourd'hui, qu'on doit faire tout pour les amener sur la table du dialogue. C'est ça un dialogue sincère. Ça, c'est le premier point. En second lieu, aussi, les recommandations, leur mise en œuvre, c'est sélective. Nous le savons. C'est sélective. Toujours, le gouvernement prend ce qu'il veut dans les recommandations. Et souvent, même, ils peuvent même aller dans des violations des recommandations. On s'en fout. Je me rappelle encore beaucoup de points des Assises nationales de la Refondation où le gouvernement devait très rapidement aller vers leur mise en œuvre. Ça a pris du retard de façon volontaire, on le sait. Donc moi, je pense aujourd'hui, nos dialogues ne sont pas sincères. Nous les organisons, nous mettons l'argent du contribuable dedans, mais par fini, le résultat est connu d'avance, avant même les dîmes, avant les Assises nationales de la Refondation, nous avons alerté. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle on n'a pas pris part, parce que nous avons demandé à rencontrer le président de la transition pour être sûr que ces dialogues, l'objectif de ces dialogues, de ces assises, n'est pas de prolonger la transition. Et nous avons douté de ça, et ça a fini par ça.
On nous dit, la technique me fait signe qu'on a 10 petites minutes pour clore cette émission. On n'a même pas parlé du plan politique, on est toujours sur le plan sécuritaire. Mais j'ai vu M. Barrault qui voulait réagir, une parenthèse en 30 secondes, M. Barrault.
Juste, je me réjouis lorsqu'il nous fait rappeler de tous les forats de l'accord primaire de Ouagadougou jusqu'à aujourd'hui. Il y a eu des recommandations qui ont été faites. L'accord primaire de Ouagadougou avait dit quoi? Et 3 mois après l'installation du nouveau président, on va engager les dialogues. Mais pourquoi ce président, une fois installé, au lieu d'engager les dialogues, est resté sans le faire jusqu'à ce qu'il y ait les actions dramatiques de Kidal, qui nous a conduit à négocier en état de faiblesse, qui nous a obligés de signer un accord qui a par fini tout foutre en l'air. Et c'est la conséquence de ce refus-là que nous sommes en train de gérer.
Et ça finit par quoi?
Par le dialogue.
Alors, je me dis que vous êtes au voilà. moins d'accord, et par vous deux, pour dire que ce sont les résultats,
si
les conclusions des travaux qui ne sont pas appliqués à temps.
Non, voilà.
D'accord. Maintenant, on va parler du plan politique rapidement. C'est 8 petites minutes qui nous restent à présent. Les autorités de la transition ont décidé, par exemple, de se retirer de la CEDEAO et se mettre en confédération avec certains pays, notamment en créant l'Alliance des États du Sahel, l'AES, avec le Burkina et le Niger. Il y a eu également la suspension des partis politiques et associations, et des hommes politiques également ont été arrêtés. Il y a eu ces temps-ci également la brouille avec l'Ukraine. Sur le bilan de la gestion politique, que retenez-vous? Je commence par vous, Amadou Touré.
Bon, sur le... pas bilan, mais parce que
oui.
pour parler
je
de bilan,
pas bilan, voilà. retenez-vous,
la fin
retenez-vous
de la transition,
quand même.
C'est pas pour demain.
C'est pas demain. Bon, voilà, on ne sait pas. Peut-être que ça peut être demain,
bon,
parce que jusqu'à présent,
bon,
le délai n'est pas précis.
N'est pas précis parce qu'il n'y a aucun signe. Mm-hmm. Bon, on peut parler, ce qu'on peut retenir, c'est que c'est le président Assimi qui sort un peu renforcé au plan politique. Et qu'est-ce qu'on retient? On retient qu'il y a plus de notions de souveraineté à travers les 3 principes qui sont actés dans la Constitution. Et aussi, c'est que nous pouvons dire à ce jour qu'il faudrait que les autorités comprennent que dans les relations politiques, il est toujours demandé de faire ce qui est possible au moment opportun, de travailler plus, d'éviter les discours, d'éviter les tensions inutiles, de travailler plus à réunir les uns et les autres et de faire ce qui est possible pour rejoindre un peu Nelson Mandela. Comme il l'a dit, personne ne fera l'Afrique à notre place. Les pays développés n'ont pas été conduits par des anges, c'est plutôt des hommes. Qu'on laisse les grands discours, qu'on travaille main dans la main, qu'on laisse notre côté émotif et émotionnel pour essayer au maximum de travailler. Moi, je dirais tout simplement qu'on a eu des acquis, notamment à travers l'AES, mais les défis de l'AES à ce jour sont le défi économique, parce que l'AES n'a pas de monnaie. La libre circulation des personnes et des biens pose problème, parce qu'on va quitter... bientôt, en janvier 2025, la CEDEAO va retirer ses passeports. Et ça c'est un problème.
C'est déjà acté que la CEDEAO va retirer
oui,
ses passeports
c'est
en janvier 2025.
Parce que si, à ce jour, on n'a pas eu de coopération bilatérale avec les pays voisins et qu'on ne revient pas sur la décision, ce qui n'est pas à l'ordre du jour, en janvier 2025, nous serons obligés, conformément à ce qui a été demandé au président de la Commission Touré, par les chefs d'État, c'est de voir les possibilités de divorce possibles. S'il y a divorce, c'est que nous allons perdre les avantages de la CEDEAO. Mais le Mali pourrait négocier, l'AES pourrait négocier en bloc, soit par des coopérations bilatérales ou multilatérales. Mais à ce jour, nous, même nos cartes NINA, c'est des cartes CEDEAO. Donc nous sommes vraiment pas dans un pessimisme, mais on espère que d'ici là, ils vont
comme trouver... Comme vous l'avez dit, on peut discuter des éventualités,
des
modalités du divorce. Boulan Baro, est-ce que l'évolution de la chose politique dans le pays, elle est rassurante par la transition?
Non, moi je ne suis pas trop rassuré par rapport à l'engagement de nos camarades politiques. Franchement, il faudrait le dire. Si aujourd'hui, il ne faut pas qu'on confonde l'AES ou tous les projets à un individu, hein, le pays ne se limite pas à un individu. Et personne ne peut interdire un discours politique aux hommes politiques. Que ça soit très clair. Tout a été fait pour miseler les hommes politiques depuis le début de cette transition. Mais nous sommes restés égaux à nous-mêmes. Et personne ne peut nous mettre dans les placards. Hein, que ça soit très clair. Ça s'est fait avec les hommes politiques. Pour l'avènement de cette transition, les hommes politiques se sont engagés. Et nous allons continuer à nous engager. La transition n'est pas personnalisée. Et elle ne sera pas personnalisée. C'est des visions politiques qui sont exprimées pour exiger les changements. Et nous allons y veiller. Nous allons nous battre, on ne va pas se décourager. Aucune tentative de sabotage de l'action politique ne va prospérer ici. Que ça soit très clair. Maintenant, je suis étonné qu'on ne parle pas trop du léger report qu'on nous a annoncé pour marquer la fin de la transition. De façon souveraine et autonome, nous avons dit que nous allons tenir les élections à une date précise. De 2000 à 13 ans, c'était 18 mois. Les gens ont tâtonné pendant 9 mois, ils n'ont plus rien apporté. Lorsqu'il y a eu la rectification, nous avons pu donner un sens et un contenu à la transition, un sens et un contenu politique à la transition. Nous ne sommes pas sur la base de 2 ans. Ces 2 ans ont fini. On nous installe dans une prolongation tacite. Et les partis politiques semblent s'accommoder de cette situation. C'est très grave.
Alors, vous avez mis votre pied dans le plat, j'allais en parler. Est-ce que les dispositions aujourd'hui sont prises pour le calendrier électoral? Est-ce qu'on en parle?
Parmi les objectifs majeurs que les M5 s'est fixés, nous, on peut se satisfaire de tous les autres objectifs, sauf un, la tenue des élections crédibles et transparentes. C'est à partir de là, nous constatons, il y a une année, on est en train de tourner autour de cette question, notamment la carte biométrique sécurisée, qui doit être le document électoral. Il y a des problèmes à ce niveau. On nous fait savoir que non, les Maliens refusent d'aller hériter les cartes. Pendant que beaucoup de Maliens n'ont pas encore les cartes qui sont disponibles. L'EJ nous appelle tout récemment pour dire qu'elle est prête pour les élections, mais elle ne peut pas fixer des dates. Et les partis politiques n'ont pas saisi ça pour exiger à l'EJ d'instaurer un chronogramme de dialogue périodique avec l'EJ pour qu'on puisse non seulement parler, l'EJ dit qu'elle est prête, qu'elle va nous faire sortir les fichiers électoraux dont elle dispose et qu'on parle réellement d'élections. Aujourd'hui, tout ce qu'on fait là, que ce soit l'AS ou CEDEAO, le seul objectif qui reste aujourd'hui, c'est d'aller vers des élections crédibles qui vont amener la stabilité politique dans ces pays-là. Tant qu'on ne va pas vers ça, il ne faudrait pas que nous pourrons espérer que l'AS... Non, non, il faudrait qu'on aille vers une stabilité politique qui va amener... On ne peut pas voter une constitution, promulguer la constitution, et une année... On fait comme si cette question n'a jamais existé. Nous
merci
n'avons pas
beaucoup,
voté pour rien.
Boulan Baro,
nous n'avons pas voté le 8 pour rien.
Boulan Baro,
cette constitution sera d'application.
On va poser la même question à Sekou Niamey Batili. Comment vous voyez aujourd'hui l'évolution du calendrier électoral avec cette transition-là? Est-ce que les lignes ont bougé?
Non, puisqu'il n'y a même pas de calendrier électoral. Ça, un peu le problème aussi. Boulan l'a dit. Et vous savez, le non-respect des engagements pris de nos autorités lors de cette transition est une réalité. Ils l'ont combattu par le passé, mais ils font pire que leurs prédécesseurs. Sur ces plans, sur ces volets, rien n'a été fait. D'abord, une première durée de 18 mois de la transition n'a pas été respectée. Après, à travers un décret présidentiel, le président de la transition a pris 24 mois. Les autorités n'ont pas encore respecté ces nouveaux délais. Et là, nous sommes dans un saut à l'inconnu. Une transition avec une durée indéterminée. Sans compter le lot de violations des textes, y compris la Constitution et les autres textes connexes. Ce sont des réalités dans notre pays. Donc nous pouvons dire sur les plans politiques, les seules avancées que moi j'ai pu noter, c'est surtout la relecture de la loi électorale. Ça a été fait. L'installation de l'autorité indépendante des gestions des élections, ça aussi, c'est une réalité. Mais à côté, il faut reconnaître que des décisions politiques d'envergure aussi ont plongé notre peuple dans, on peut dire, dans la pauvreté, dans la précarité. Ça, c'est une réalité. Quand on prend les prix des denrées de première nécessité.
Alors, j'ai 1 minute 30. Le jingle a été donné pour clore l'émission. 30 secondes pour vous tous. Je commencerai par vous, Sekou Niamey Batili. Qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui pour accompagner les autorités de la transition, peut-être pour donner un calendrier électoral fiable?
Que ce soit le calendrier ou les autres choses, moi, j'estime aujourd'hui que les autorités doivent réunir les forces vives de la nation et qu'ensemble, nous puissions discuter du calendrier électoral et que ce soit un bref calendrier pour sortir de cette transition qui n'a que trop duré, mais surtout que les autorités sortent de ces discours que moi je qualifie souvent.
Merci beaucoup, Sekou Niamey Batili. Il parle de rencontres. Est-ce qu'on n'a pas fait trop de rencontres pour accompagner la transition,
bon,
M. Touré?
Pour dire, moi, ce que j'ai dit, tout simplement, il faut qu'on se réunisse, qu'on cesse de parler, qu'on travaille. Parce qu'on a assez parlé, assez de réunions, que les autorités aient le courage d'établir un nouveau calendrier. Sans des élections, comme je l'ai dit, l'instabilité des institutions aussi pose des défis énormes à notre pays.
Est-ce qu'un calendrier électoral, une élection à la fin de cette transition peut amener la sécurité, une meilleure gestion politique, gouvernance du pays, etc., M. Barrault?
Moi, au lieu de parler de calendrier, moi, je préfère parler de collège électoral. Il s'agit d'une seule élection qui va marquer la fin de la transition. De quel calendrier avons-nous besoin? Non. Qu'on fixe la date des élections. sur la base des dispositions organisationnelles que l'AIS nous disait tout récemment. Qu'on fixe la date, on n'a pas besoin d'un calendrier, il s'agit de convoquer le collège électoral pour fixer la date des élections. Vouloir parler de calendrier, cela voudrait dire que, comme si nous devions organiser plusieurs élections. Non?
Merci beaucoup. Une seule élection, la présidentielle.
Pour marquer la fin de la transition et qu'on passe à la troisième dimension de la lutte et révolution du M5SP.
Merci beaucoup. On aura compris que beaucoup a été fait, mais des efforts restent encore pour cette transition. Grand merci à nos invités. Ils étaient en nombre de trois. Sekouniame Batili, chargé à la communication du parti RPM. Boulon Baro, membre du directoire du parti SNI de Faso Yiriwaton. Dr Ahmadou Touré, chercheur en sciences politiques, paix et sécurité. Cette émission a été réalisée par Imirana Kilou Maïga. À la régie son et vidéo, il y avait Philippe Dambélé et Ibrahim Sanogo. Je suis Mariam Maïga. Grand merci à vous et à la prochaine.